il y a tout le temps le nombre idéal d'individus. C'est-à-dire la société se rééquilibre en permanence pour qu'il n'y ait personne qui meure de faim. La société fourmille, tout le monde est égal. C'est une sorte de communisme réussi et il n'y a pas de gens qui meurent de faim.
On peut les regarder inlassablement porter des charges bien plus lourdes qu'elles et cheminer à la queue-leu-leu en fils interminables. Les fourmis, insectes minuscules, semblent dotées de pouvoirs incroyables et d'une volonté inébranlable. Peu importe leur taille ou le volume de leur cerveau, qui ne contient pas plus qu'un demi-million de neurones. Les capacités cognitives d'une fourmi paraissent limitées, mais les compétences d'une colonie sont impressionnantes. Exploratrices infatigables de la planète, les fourmis ont colonisé toutes les terres. Les chercheurs qui étudient les fourmis sont des myrmécologues. Myrmécologues comme Audrey Dussutour, chargée de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Audrey Dussutour, chercheuse CNRS, est connue pour avoir sorti le blob de l'anonymat, mais elle est bien avant tout une spécialiste des fourmis.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Audrey Dussutour.
Bonjour.
Alors, vous vous intéressez aux fourmis depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel chez les fourmis ? Ce sont des insectes sociaux. Une colonie peut compter plus d'un million d'individus. Mais qu'est-ce qui vous fascine chez les fourmis ?
Alors moi, je me focalise sur l'intelligence collective des fourmis. C'est ce qui vraiment, parce que elles ont une organisation qui n'est pas centralisée comme la nôtre. Il n'y a pas de hiérarchie réelle chez les fourmis. Et ce qui m'intéresse, c'est comment collectivement elles arrivent à résoudre des problèmes qui sont extrêmement complexes, que même parfois nous-mêmes, nous n'arrivons pas à résoudre.
Par exemple ?
Alors, par exemple, le voyageur de commerce, c'est l'exemple le plus connu. Quand un voyageur doit rejoindre plusieurs villes pour, par exemple, vendre des ustensiles, il est très difficile de trouver le chemin le plus court, par exemple, entre Marseille, Paris, Toulouse, Bordeaux, etc. Si on rajoute plein de villes, le problème devient très complexe. Et pourtant, les fourmis peuvent résoudre ce problème en moins d'une heure.
Ces problèmes de transport, on y reviendra, mais dites-moi, c'est vrai qu'il y a 13 000 espèces différentes de fourmis ?
Alors, il y en a 13 000 connues, mais on en a plein qu'on ne connaît pas encore. On estime jusqu'à 20 000 le nombre exact d'espèces de fourmis, bien qu'on ne sait pas. Il faut savoir que sur, par exemple, un arbre en Amazonie, il peut abriter plus de 50 espèces de fourmis différentes, un seul arbre. Donc, on a une diversité incroyable, une diversité qu'on risque de perdre un petit peu avec la déforestation. Parce que vraiment, les fourmis peuvent vivre dans plein d'habitats différents. Une colonie peut parfois tenir dans un tout petit gland et parfois habiter dans un équivalent humain d'un T5, par exemple.
Et il y en a partout, des fourmis. Il y aurait 10 millions de milliards de fourmis avec un poids qui représenterait la moitié de celui de l'humanité.
Alors, moi, il me semble avoir entendu des milliards de milliards de fourmis et que ça serait même trois fois la biomasse humaine. Donc, en fait, c'est des chiffres qui sont forcément pas très précis, on ne sait pas actuellement, mais clairement, la biomasse des fourmis est énorme. C'est un des insectes les plus répandus.
C'est vrai que cet insecte est fascinant. On dit qu'elles ont découvert l'agriculture bien avant les hommes, il y a 200 millions d'années. Et les antibiotiques aussi, elles connaissent les antibiotiques qu'elles ont découvert il y a 50 millions d'années.
Tout à fait, ça c'est les fourmis coupeuses de feuilles qu'on trouve en Amérique du Sud, qu'on appelle aussi les attas. Donc ces fourmis en fait cultivent des champignons dans des chambres à l'intérieur de nids gigantesques et elles nourrissent leurs champignons avec des morceaux de feuilles. Or, ce champignon, il peut attraper des parasites. Et les fourmis, pour les protéger, en fait, utilisent des antibiotiques. Ces antibiotiques sont produits par des bactéries qu'elles abritent sur leur peau, en fait, sur leur cuticule. Et elles utilisent ces bactéries pour soigner le champignon. Il faut savoir que ces bactéries sont passées de génération en génération chez ces colonies de fourmis.
Fascinant, là encore. Je vous propose un texte que tout le monde connaît, évidemment, on a tous appris ça à l'école. La cigale et la fourmi, la très célèbre fable de La Fontaine, dite en 1948 par Madeleine Renaud.
Ce soir, le rideau de la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, se lève sur Jean de La Fontaine. Cette émission vous sera donnée avec le concours de Madeleine Renaud, Simone Valère, André Bruno, Jean-Louis Barrault, Jean de Sailly et Jean-Pierre Grandval.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêts et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » « Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. »
Alors, ce mythe de la fourmi travailleuse, finalement, n'est pas si réel que ça.
En réalité, oui, il y a des fourmis qui ne font rien de la journée. On a ce mythe de la fourmi travailleuse parce que tout ce qu'on voit, nous, ce sont les fourmis qui récoltent de la nourriture. Et il faut savoir que c'est seulement 10% de la colonie. 90% de la colonie reste enfermée dans le nid. Et dans ces 90%, certaines fourmis vont s'occuper de la reine, des jeunes. Et il y a des fourmis aussi qui sont à l'abri dans des chambres et qui ne font rien. En réalité, ces fourmis ont une utilité puisque si jamais il arrive quelque chose à la colonie, elles pourront prendre le relais, par exemple, de récolteuses s'il leur arrive un pépin à l'extérieur de la colonie. Mais on a cette idée parce que vraiment, on voit toujours les fourmis qui récoltent. C'est des fourmis qui sont très affairées, toujours en train de chasser, de ramener de la nourriture. Et donc, on a cette fausse impression d'une fourmi toujours occupée. Nous, par exemple, en laboratoire où il y a moins de choses à faire que dans la nature, on a plein de fourmis qui ne font rien.
Une fourmi peut traîner des charges bien supérieures à son poids. Comment fait-elle ?
Alors oui, les fourmis peuvent porter jusqu'à 8-15 fois leur propre poids, ce qui est quand même énorme, mais elles peuvent aussi tenir jusqu'à plus de 7000 fois leur poids. Certaines espèces de fourmis peuvent, par exemple, tenir une pièce de 10 centimes d'euros à bout de bras. Donc, pour une petite comparaison, c'est comme si vous deviez tenir 3 baleines bleues à bout de bras. Donc, c'est assez incroyable. Elles peuvent transporter aussi collectivement des proies qui peuvent faire jusqu'à 10 000 fois leur propre poids. Donc, elles ont des capacités assez incroyables, mais il faut ramener ça à leur taille. On ne peut pas vraiment faire des comparaisons directes avec l'humain parce que tout dépend, bien sûr, de la taille et du poids des organismes. Et les fourmis sont aussi différentes de nous puisqu'elles ont ce qu'on appelle un exosquelette, ce qui est le cas des insectes, c'est-à-dire que le squelette de la fourmi n'est pas à l'intérieur du corps, mais à l'extérieur. Le squelette les enveloppe. Et donc ça leur donne pas aussi les mêmes capacités que nous.
Et c'est leur organisation qui nous étonne et nous fascine. On y reviendra dans un instant. Mais est-ce que c'est une organisation qui nous étonne parce que ça ressemblerait à nos sociétés humaines ?
Oui, tout à fait. On parle souvent d'ailleurs de société de fourmis et on a l'impression qu'il y a une énorme collaboration au sein de la colonie. Mais en réalité, on ne devrait pas comparer les sociétés de fourmis aux sociétés humaines, mais plutôt aux familles humaines. Parce que ce qu'on appelle une société de fourmis, c'est une colonie. Et une colonie partage la même mère, des fois plusieurs mères, mais c'est une même famille. Elles ont un patrimoine génétique en commun et elles ont donc tout intérêt à collaborer. Alors que quand on parle de société humaine, on est des êtres un petit peu différents les uns des autres. On devrait vraiment comparé à l'unité famille, finalement. Et on retrouverait finalement la même coopération au sein d'une famille humaine.
Écoutez ce qu'en disait Rémi Chauvin en 1965. Rémi Chauvin, biologiste, entomologiste, spécialiste des fourmis, comme vous.
Tandis que l'on écoute pour la première fois, sans doute, le bruit réel de la grande fourmilière, alors que l'on est parvenu à regarder vivre à leur échelle ses habitants, on s'aperçoit qu'il n'est plus possible de comparer une fourmilière à une capitale, et moins encore une fourmi à un individu. Et ce pourrait être justement une découverte significative. La vie collective des insectes sociaux est au sens propre inhumaine.
Rémi Chauvin en 1965 qui disait qu'il faut en finir avec les analogies anthropocentrées. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben oui, c'est tout à fait vrai. En réalité, une colonie de fourmis fonctionne pas de la même façon que nous. Tout simplement parce qu'aussi les fourmis n'ont pas la même façon de percevoir le monde que nous, puisqu'elles n'ont pas les mêmes sens. Et donc le monde d'une fourmi, on ne pourra finalement, même nous, myrmécologues, ne jamais comprendre finalement comment la fourmi perçoit le monde. On peut se rapprocher de cette perception, mais en réalité, il est très très difficile de se mettre à la place d'une fourmi, quasi impossible.
Et dans un instant, Audrey Dussoutour, nous partirons avec vous dans une fourmilière.
plus sur la terre que du beurre fondu. Avec le dernier soupir du dernier disparu. Dernier boom, la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers. Premier monde, la première heure, première minute d'un bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous deux bouge couché sur les fourmis rouges. Tu n'auras jamais peur du vent qui souffle ici. Pour les scorpions, te fais pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères, quand on s'aime, ils nous aiment aussi. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était coupé sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous sur les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous debout est couché sur les fourmis rouges.
Quelle chanson, Les fourmis rouges de Michel Jonas.
Les aventuriers sur France Inter.
Les fourmilières, à l'échelle de leurs habitantes, sont de véritables cathédrales, des structures immenses, protégées par des guerrières hors pair, armées jusqu'aux dents. Les fourmis ont inventé l'agriculture il y a bien longtemps et elles connaissent les antibiotiques. Audrey Dussutour passe beaucoup de temps à observer le monde étrange de ces insectes. Audrey Dussutour, vous allez maintenant nous emmener dans une fourmilière. Est-ce que toutes se ressemblent d'ailleurs ?
Non, toutes. Alors, comme il y a 13 000 espèces, il y a toujours 13 000 histoires à raconter et 13 000 fourmilières à raconter. Donc, certaines, par exemple, fourmilières vont comprendre une seule chambre, alors que d'autres vont comprendre des milliers de chambres reliées par des galeries complexes. Les fourmis coupeuses de feuilles, les fourmis donc agricultrices, sont par exemple des nids extrêmement complexes. Elles sont capables, par exemple, de réguler la température de certaines chambres en utilisant des petites cheminées qu'elles construisent à la surface du nid et en orientant, en fait, l'entrée de l'air à l'intérieur de la colonie. Elles peuvent comme climatiser tout ça sans électricité, un énorme nid qui peut aller jusqu'à plus de 8 mètres de profondeur. Et certaines fourmis vont vivre par exemple dans les arbres où elles vont tisser leur propre nid, donc elles vont plier les feuilles, utiliser les jeunes larves pour tisser comme un métier à tisser et fabriquer un nid assez complexe au milieu des feuilles. Il y a certaines aussi colonies, comme les fourmis légionnaires, qui construisent leur nid par l'utilisation de leur propre corps. En fait, elles s'imbriquent les unes les autres, elles se tiennent les bras, les jambes, et elles forment comme ça ce qu'on appelle des bivouacs, des boules de fourmis, qui vont regrouper plus de milliers de fourmis qui vont vivre dans ces grandes, grandes boules de fourmis.
Parce qu'il y a combien de fourmis dans une fourmilière ?
Alors ça, ça va dépendre de l'espèce. Chez les plus petites colonies, c'est une trentaine d'individus. Et les plus grandes, par exemple les fourmis agricultrices ou les fourmis légionnaires, peuvent avoir plusieurs millions d'individus au sein de la même colonie.
Toutes les fourmis dans une fourmilière n'ont pas la même taille, n'ont pas le même rôle. Il y a même des courageuses, des timides. Il semblerait qu'elles ont des caractères.
Oui, tout à fait. Alors, au sein d'une colonie, parfois, chez certaines espèces, vous avez ce qu'on appelle des soldates ou des majors. Et ces fourmis-là peuvent faire jusqu'à 200 fois le poids d'une autre fourmi de la colonie. Donc, il faut imaginer que c'est comme si vous aviez une sœur avec qui vous partagez 75% de votre patrimoine génétique qui fait 200 fois votre poids, donc la taille d'un tyrannosaure. Et tout ça partagé dans la même colonie. Donc, on a vraiment des fourmis qui vont, des fois, avoir une morphologie finalement adaptée à leur travail. Donc par exemple, chez les fourmis agricultrices, les jardinières qui vivent dans les champignonnières sont toutes petites, elles font à peine quelques millimètres parce qu'elles doivent rentrer dans la champignonnière pour intégrer le terreau fait de feuilles, alors que celles qui récoltent à l'extérieur de la colonie les feuilles, elles font jusqu'à 1 cm de taille. Donc on a vraiment toute une grande diversité de fourmis au sein même d'une colonie, même si elles sont sœurs.
Comment est-ce qu'on devient agricultrice, combattante ou ouvrière ?
Alors, ça va dépendre de l'espèce une nouvelle fois. Chez certaines fourmis, c'est en fonction de l'âge, comme chez les abeilles. Au départ, elles sont ce qu'on appelle nourrices. Elles vont s'occuper des larves de la reine. Ensuite, elles deviennent constructrices. Elles vont commencer à travailler sur le creusement du nid. Et puis, elles vont se rapprocher de la sortie. Puis, elles vont devenir récolteuses. Alors, pourquoi les récolteuses sont les fourmis les plus âgées la plupart du temps? Parce que c'est finalement le métier le plus difficile. Une fois que la fourmi sort à l'extérieur du nid, pour elle, c'est un monde, c'est un petit peu Jurassic Park. Il y a des monstres partout et elle doit survivre à tout ça, ne pas perdre son chemin. Et donc, être récolteuse, c'est un travail extrêmement risqué. Et donc, c'est pour ça qu'on le donne finalement à faire aux fourmis les plus âgées. C'est un petit peu l'inverse de notre société où on envoie à la guerre les plus jeunes. Les fourmis n'envoient pas à la guerre les plus jeunes fourmis.
Je retiens que les ouvrières n'endossent pas une tâche pour toute la vie. Vous parliez de Jurassic Park. Je vous propose un extrait de Fourmise, un film d'animation avec Zed qui est une fourmi névrosée qui refuse le rôle d'ouvrier qui lui est assigné.
C'est mon travail. Ne me lancez pas là-dessus parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, j'étais pas fait pour être ouvrier. Ça, je vous le dis tout de suite. Je me sens physiquement inadéquat. Pas une fois dans ma vie, j'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Et tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, c'est pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir. C'est cet enthousiasme général pour le méga organisme que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie mais j'y arrive pas. Je veux dire ça veut dire quoi que je ne suis censé penser qu'au bien-être de la colonie, hein, et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi? Alors je suis bien obligé de me persuader qu'il y a un monde quelque part qui est mieux qu'ici. Sinon j'ai plus qu'à me coucher en position larvaire et à me mettre à pleurer.
Alors est-ce que c'est bien vu?
Je ne sais pas si les fourmis se posent ce genre de questions, mais c'est vrai que certaines fourmis vont faire la même tâche toute leur vie, d'autres vont changer. Je pense que finalement, la tâche la plus ingrate peut-être dans une colonie de fourmis, c'est celle de la reine, puisqu'elle est enfermée dans une chambre pour la plupart des fourmis, et elle pond toute la journée. Il faut savoir que la reine des fourmis légionnaires, qui est une des plus grandes reines, qui fait à peu près 5 cm, pond un œuf toutes les 2 secondes. C'est une très très grande famille, mais elle fait ça toute la journée, elle ne bouge pas, elle ne sort pas.
Alors on les voit effectuer des tâches en groupe, parfois elles portent des choses à plusieurs. Est-ce qu'on a compris comment elles fonctionnent, les fourmis ?
Alors oui, en effet, le transport collectif chez les fourmis, ça a été très bien étudié par un collègue à moi qui s'appelle Ofer Feinerman. Et il montre en fait qu'il y a une grande coordination, c'est comme des équipes finalement, comme des petites équipes de foot, qui s'entraident pour porter des proies qui peuvent faire jusqu'à 10 000 fois justement leur propre poids. Et ces fourmis s'organisent. Au début, elles tirent dans toutes les directions. On a l'impression que c'est complètement anarchique. Et puis finalement, petit à petit, elles s'ajustent et elles finissent par toutes tirer dans la bonne direction, vers le nid. Et il a montré que les fourmis, comme ça, pouvaient éviter des obstacles de manière totalement coordonnée. Mais si on y regarde d'un peu plus près, c'est vrai qu'au début, ça ressemble plus à un conflit qu'à un exercice coopératif.
Elles portent ou bien elles creusent, comme le racontait Rémi Chauvin, biologiste donc, en 1965.
Si vous voulez faire un trou, Vous vous adressez à un homme possédant par exemple une pelle mécanique, n'est-ce pas ? C'est une machine étroitement calculée pour faire ce qu'elle doit faire. Il n'y a pas un kilo de métal en trop. Et l'homme qui est aux commandes a des organes sensoriels bien informés. Ben, la fourmilière ne fera pas ainsi. Elle enverra 50 000 petites pelles mécaniques, qui sont des fourmis isolées, qui sont très mal informées, en un sens qu'elles n'ont pas idée précise de la tâche qu'elles doivent accomplir. L'une, par exemple, prendra une pelletée de terre, la mettra à gauche. Mais la suivante prendra très bien la pelletée de terre et la remettra dans le trou. Résultat pratique, eh bien, la fosse est creusée, elle est creusée vite. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Vous comprenez ? C'est ces types de coordination spéciaux qui aboutissent à la tâche collective, dans l'incohérence des efforts individuels, que nous ne comprenons pas.
Et est-ce que l'on comprend mieux aujourd'hui, Audrey Dussutour ?
Oui, c'est vrai que les fourmis n'ont pas de plan comme les architectes. Elles ne savent pas individuellement ce qu'elles sont en train d'accomplir. Et en réalité, c'est que la tâche de chaque fourmi va impacter la tâche de la fourmi suivante. Donc par exemple, si on prend l'exemple des boulettes de terre, quand une fourmi prend une boulette de terre, elle enduit souvent de salive et elle va la déposer au sol. Et quand une autre fourmi qui se balade avec sa petite boulette de terre va voir cette boulette, elle va avoir envie, une petite envie de la déposer au même endroit. Et ainsi de suite, et on va avoir ainsi la formation d'un pilier. Et en réalité, vraiment, la fourmi réagit au travail de sa voisine. Elle n'a pas idée du travail collectif, mais elle a au moins idée du travail de ses voisins. Et c'est comme ça que, par des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'amplification, ou des effets boules de neige, on a la formation, par exemple, de grands piliers. Et c'est le même fonctionnement, par exemple, chez ces grands nids de termites qu'on peut observer en Afrique.
Et les fourmis sont des insectes très propres. Elles savent même lutter contre les épidémies. On pourrait peut-être même s'en inspirer pour éviter les épidémies. Quand elles sont infectées par un champignon, elles s'en débarrassent.
Oui, alors les fourmis sont très très propres, même en laboratoire, c'est assez impressionnant. Et donc par exemple, chez les fourmis coupeuses de feuilles, quand le champignon attrape un parasite et que finalement les antibiotiques ne suffisent pas, les fourmis prennent les bouts de champignons, courent dans la colonie et vont les jeter dans des espèces de décharges. Et les fourmis qui vivent dans les décharges n'en sortent jamais parce qu'elles-mêmes portent d'énormes infections. Et il y a vraiment une séparation physique entre les décharges et les champignonnières. De même, quand une fourmi est infectée, les autres fourmis vont tenter de la nettoyer, de lui enlever ses parasites. Et si jamais elles ne peuvent pas, la fourmi infectée va s'éloigner, va quitter le nid. Un petit peu comme les oiseaux qui se cachent pour mourir, la fourmi va partir mourir loin et comme ça épargner la colonie.
Je vous propose un extrait des fourmis de Bernard Werber, lu par Fanny Leroy.
Toute la cité est maintenant réveillée. Les couloirs sont remplis de fourmis messagères thermiques qui s'empressent de réchauffer la meute. Pourtant, à certains carrefours, on trouve encore des citoyennes immobiles. Les messagères ont beau les secouer, leur donner des coups, elles ne bougent pas. Elles ne bougeront plus. Elles sont mortes. Pour elles, l'hibernation a été fatale. On ne peut sans risque demeurer 3 mois avec un battement cardiaque pratiquement inexistant. Elles n'ont pas souffert. Elles sont passées de sommeil à trépas durant un brusque courant d'air enveloppant la cité. Leurs cadavres sont évacués, puis jetés au dépotoir. Tous les matins, la cité enlève ainsi ses cellules mortes avec les autres ordures. Une fois les artères nettoyées de leurs impuretés, la ville d'insectes se met à palpiter. Partout, les pattes grouillent, les mâchoires creusent, les antennes frétillent d'informations. Tout reprend comme avant. Comme avant, les vers anesthésiants.
Mais on a l'impression d'y être, là.
Oui, tout à fait. Il est vrai que les fourmis font en laboratoire, elles font des cimetières. Dans la nature, c'est difficile d'observer des cimetières parce que souvent le vent chasse les cadavres. Mais en effet, quand une fourmi meurt dans la colonie, elle est transportée à l'extérieur et déposée le plus loin possible de l'entrée du nid. Et donc, en laboratoire, c'est souvent dans un coin du coup d'une boîte, d'une fourmilière donc artificielle. Et on a ces amas de cadavres qui font vraiment passer en des cimetières.
Ça vit combien de temps une fourmi ?
Alors, les ouvrières vivent... si elles ne vont pas récolter à l'extérieur, comme nous au laboratoire, elles peuvent vivre 1 année, 2 années, ça dépend de l'espèce. Mais la reine, elle, peut vivre bien plus longtemps, puisqu'on a déjà gardé des reines jusqu'à 29 ans en laboratoire. Et dans la nature, les reines, c'est autour de 10-15 ans. Une ouvrière, par contre, ne dépassera pas souvent 2 ou 3 mois, parce que quand elle devient récolteuse, là, elle fait face à tous les dangers. Et donc, elle peut se faire prédater, elle peut mourir de dessiccation. déshydratation, mourir de faim. Et donc, il y a plein de causes possibles. Mais voilà, en laboratoire, je dirais 1 à 2 ans.
Audrey Dussutour, dans un instant, vous allez nous parler des flux de circulation d'ifourmis, puisque vous travaillez précisément sur ce sujet.
Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but heaven is so strange. She said you were here, oh, you played the part, but you ruined. And you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes. But now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but I've been in so strange. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but power.
C'est Billie Eilish, Your Power.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Dans le monde des fourmis, le mot embouteillage n'existe pas. Les fourmis adaptent en permanence leurs règles de déplacement en fonction de la densité du trafic. Elles ne connaissent pas les bouchons. Audrey Dussutour et des chercheurs de l'Arizona ont co-signé un article sur la circulation des fourmis qui n'est pas passé inaperçu. Alors qu'est-ce que vous avez véritablement découvert, Audrey Dussutour ?
On a découvert qu'il n'y avait pas d'embouteillage chez les fourmis. Alors en réalité, ça fait des années qu'on essaye de créer des embouteillages chez les fourmis et elles trouvent toujours les moyens de les éviter. Donc moi, j'ai fait tout mon doctorat sur le sujet et il faut l'avouer, il n'y a pas d'embouteillage chez les fourmis.
Qu'est-ce que vous avez fait comme expérience pour comprendre ça? Qu'est-ce que vous avez observé des dizaines et des dizaines de fourmilières au travail?
Alors, c'est des expériences de très longue haleine et pourtant extrêmement simples. En réalité, vous connectez une colonie de fourmis à une source de nourriture et vous mettez une route entre les deux. Et vous faites varier la largeur de cette route et surtout, vous faites varier la taille de la colonie. Donc, des fois, vous avez juste 800 bouches à nourrir, mais des fois, il y en a plus de 30 000. Et on a des tout petits ponts, des fois là, ça offre le pont offre un passage de une à deux fourmis à la fois et parfois par contre beaucoup plus. Et comme ça on a pu faire varier la densité de fourmis, donc le nombre de fourmis par unité de surface. Et on est monté jusqu'à 25 fourmis au centimètre carré. C'est énorme, ce qui équivaut à 10 personnes pratiquement au mètre carré. Alors nous, quand on est 10 personnes au mètre carré, on ne bouge pas, hein. Il y a rien qui se passe. Mais chez les fourmis, elles courent à cette densité-là. Et donc, on a pu trouver que les fourmis utilisent plein de règles différentes. Elles ont des règles de priorité. Donc, contrairement à nous qui avons un trafic très régulé avec des feux rouges et des feux verts, les fourmis, une nouvelle fois, réagissent en fonction des interactions locales. Donc, par exemple, les fourmis chargées de nourriture ont la priorité sur les fourmis qui ne sont pas chargées de nourriture. Donc, ce qui fait que chez les fourmis, par exemple, coupeuses de feuilles, vous allez observer des lignes unidirectionnelles de trafic avec les fourmis qui sont chargées de nourriture qui occupent le centre de la route. Et sur les côtés, vous avez les fourmis qui se dirigent vers la source de nourriture. Donc, il y a plein de petites règles de priorité et qui permettent aux fourmis de fluidifier le trafic.
Une autre règle?
Alors la deuxième règle, c'est aussi, chez les fourmis, on ne double pas. Donc par exemple, en réalité, une fourmi qui revient de la nourriture et qui ne ramène rien, parce que ça arrive parfois, elles n'ont pas du tout la priorité, celles-ci. Et du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles se cachent derrière les fourmis chargées, parce qu'elles ont la priorité, et comme ça, elles peuvent bénéficier, en formant des espèces de petits trains derrière les fourmis chargées, de la priorité de la fourmi chargée. Et donc on voit qu'il n'y a pas ces dépassements qui créent finalement souvent, dans le trafic automobile, des embouteillages, parce que ça crée des différences de vitesse. Et on a vu aussi que les fourmis pouvaient avoir des systèmes de sas d'attente, c'est-à-dire qu'elles vont laisser passer leurs petites congénères, et puis au bout d'un moment, quand le trafic diminue, elles vont s'insérer dans le trafic. Et comme ça, petit à petit, on va avoir des alternances sur le pont, comme s'il y avait une règle qui avait dit, pendant 2 minutes, vous allez vers la source de nourriture, pendant 2 minutes, vous allez jusqu'au nid, etc. Et donc on voit, nous, s'alterner comme ça le trafic sur les ponts. C'est assez incroyable, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de règles au niveau collectif. C'est vraiment des petites règles au niveau local.
Et quand elles sont devant un obstacle, qu'est-ce qu'elles font ?
Alors, la plupart du temps, elles le contournent. Et si, par exemple, nous, on avait fait une expérience avec les fourmis coupeuses de feuilles, où on avait mis, au lieu de mettre un obstacle en travers du chemin, on avait créé un petit toit, ce qui empêche les fourmis qui transportent un gros morceau de feuilles de passer. Et les fourmis, très vite, se sont mis à transporter des tout petits morceaux de feuilles, mais elles ont recruté beaucoup plus de fourmis pour compenser la réduction de la taille des feuilles. Et donc, on les voyait découper des tout petits confettis au lieu de très gros morceaux de feuilles. C'était assez rigolo. Et à la fin, quand on a mesuré finalement l'efficacité de la récolte, donc la totalité du nombre de feuilles ramenées, finalement c'était le même, qu'il y ait cet obstacle ou qu'il n'y soit pas.
Comment est-ce qu'elles repèrent leur chemin ?
Alors, chez beaucoup d'espèces de fourmis, et surtout sur celles que nous on étudie, les fourmis en fait déposent sur le chemin, sur le trajet jusqu'à la source de nourriture, des phéromones. Alors les phéromones, ce sont des substances chimiques très proches des hormones. Et donc les fourmis, quand elles vont à la source de nourriture, quand elles découvrent une source de nourriture qui leur plaît, elles vont déposer de la phéromone sur le sol. Plus la nourriture est riche, par exemple riche en sucre, plus elles vont déposer de phéromones. Et du coup, plus ça va attirer les congénères. Parce que les congénères, face à la phéromone, elles sont un petit peu toutes excitées et elles vont la suivre et la renforcer. Du coup, petit à petit, au bout d'une heure, vous allez avoir en fait une piste très très concentrée avec un énorme trafic.
Et chaque colonie possède son odeur.
Alors les fourmis ont une odeur particulière, en effet les colonies sont ce qu'on appelle des hydrocarbures cuticulaires, c'est un petit peu le parfum de la fourmi. Et ces fourmis au sein d'une colonie partagent la même odeur et c'est d'ailleurs comme ça qu'elles se reconnaissent. Les fourmis, elles sont vraiment très olfactives, elles utilisent leurs antennes Et quand elles s'approchent, la première chose qu'elles font, c'est échanger des petits coups d'antenne pour dire ah, « Est-ce que tu es de ma famille ou est-ce que tu n'es pas de ma famille ?»
Oh, c'est
si
mignon.
Tu n'es pas de ma famille, je t'attaque. Et si tu es de ma famille, je te laisse passer.
Allez, encore un extrait des fourmis de Bernard Werber avec la très jolie voix de Fanny Leroy.
Alors que le 327e mâle charrie une branchette qui doit bien peser 60 fois son propre poids, une guerrière, âgée de plus de 500 jours, s'approche de lui. Elle lui tapote le crâne avec ses segments massus pour attirer son attention. Il lève la tête. Elle pose ses antennes tout contre les siennes. Elle veut qu'il laisse tomber le travail de réfection du toit pour partir avec un groupe de fourmis en expédition de chasse. Quelle expédition de chasse ? L'autre lui fait respirer un lambeau de viande assez sec qu'elle tenait caché dans un repli de l'articulation de son thorax. Il paraît qu'on a trouvé ça juste avant l'hiver, dans la région ouest, à 23 degrés d'angle par rapport au soleil de midi. Il goûte. C'est à l'évidence du coléoptère, du chrysomèle pour être précis. Il accepte.
Audrey Dussutour, est-ce que ça se passe vraiment comme ça ?
Non, parce que déjà les mâles ne font pas, ne oui. participent pas du tout au travail de la colonie. C'est vraiment celui qui fait rien. Le mâle, il est là pour la reproduction, et la plupart du temps, il meurt après l'accouplement. Mais c'est vrai que les fourmis partagent de la nourriture, alors elles peuvent le partager sous plusieurs formes, soit par des, ce qu'on appelle des trophallaxies. Alors ça, c'est un mot assez compliqué pour dire que les fourmis se vomissent dans la bouche l'une de l'autre. En réalité, les fourmis, elles ont un estomac social chez certaines espèces, et elles vont stocker de la nourriture dans cet estomac social, et elles vont régurgiter cette nourriture dans la bouche d'une autre fourmi. Donc ça, c'est comme ça qu'elles peuvent partager la nourriture. Certaines n'ont pas cet estomac social et elles vont faire ce qu'on appelle des petits sauts, des petites gouttes qu'elles forment entre leurs deux mandibules qui sont les dents de la fourmi. Elles vont former des petites gouttes qu'elles vont partager. Elles vont se donner les gouttes de nourriture et elles peuvent aussi, bien sûr, ramener des proies qu'elles vont donner à leurs larves au sein du nid. Donc il y a en effet un partage de la nourriture puisque seulement 10% des fourmis sortent récoltées. Donc bien sûr, il y a un énorme partage au sein de la colonie.
Donc, quand on voit des fourmis, on peut imaginer qu'il y en a 90% en plus dans la fourmilière.
C'est ça, c'est vraiment juste le type de l'iceberg. Quand vous voyez des fourmis dans votre cuisine, sur votre toile cirée, faut imaginer que 90% sont cachés quelque part dans vos placards.
Racontez-nous comment se battent les fourmis, parce que les fourmilières sont protégées par des fourmis soldats.
Oui, alors pas toutes les espèces sont des soldats, mais toutes les colonies, bien sûr, se protègent. Et on a surtout, elles se protègent des prédateurs, mais aussi, bien sûr, des autres fourmis. Parce qu'on a des fourmis qui sont parfois mal intentionnées. C'est le cas des fourmis esclavagistes. Alors les fourmis esclavagistes, c'est il y a plusieurs espèces hein, chez les fourmis esclavagistes. Alors il y a certaines qui rentrent dans les nids des autres fourmis et qui piquent les jeunes. En fait, elles prennent les larves et après elles les élèvent dans leur propre nid et en font des esclaves. Vous avez d'autres espèces où carrément la reine n'est pas capable de finalement fonder sa propre colonie et elle va choisir finalement un nid hôte d'une autre espèce, elle va rentrer à l'intérieur. Alors au départ, cette reine, elle n'a pas tout à fait d'odeur, elle sent un petit peu rien neutre, du coup les autres fourmis la laissent passer. Elle va jusqu'à la chambre royale, là elle tue la reine qui est sur le siège et elle se roule près de son cadavre pour prendre l'odeur de la reine et elle va commencer à pondre et c'est ces fourmis finalement avec qui elles ne partagent rien, qui vont élever ces jeunes.
Et puis il y a des fourmis donc qui protègent les fourmilières et qui sont prêtes à se battre.
Oui, oui, les fourmis en soldates sont souvent à l'avant dans le front, autour de l'entrée du nid la plupart du temps, et elles sont à l'affût. On appelle ça un petit peu aussi des gardiennes, et elles sont prêtes à défendre la colonie. Certaines fourmis mènent même des guerres, c'est le cas des écitons, qui des fois, les écitons, donc c'est les fourmis légionnaires, qui attaquent les fourmis champignonistes, et elles sont très agressives, mais les fourmis champignonistes ne sont pas sans défense, parce qu'elles-mêmes ont leurs propres soldates, qui ont des têtes énormes avec des mandibules acérées. Donc des fois, on a en effet des vraies guerres de fourmis.
Je vous propose un extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2017, « La planète des fourmis ».
Pour l'oreille humaine, l'univers des fourmis semble silencieux. Mais une fois amplifié, l'environnement sonore de cette feuille se révèle étonnamment bruyant. Au milieu des bruits de mandibules et de pas des fourmis, on distingue un crissement aigu. C'est une stridulation, un son que produisent les fourmis en frottant l'un contre l'autre deux segments de leur abdomen. Cette petite stridulation permet aux fourmis d'appeler leurs congénères. Plus une feuille leur plaît, plus les fourmis sont bruyantes. Les vibrations se transmettent à la plante.
Vous connaissez bien ce son.
Oui, tout à fait. C'est les travaux de Flavio Rosès qui, en effet, a démontré que les fourmis champignonistes, donc les fourmis agricultrices, sont capables de striduler pour recruter leurs congénères au niveau local. Parce que les fourmis champignonistes, elles laissent des phéromones, elles construisent même carrément des autoroutes, puisqu'elles défrichent aussi. Mais une fois arrivées au niveau de l'arbre, pour se recruter, elles utilisent les stridulations. Donc elles utilisent à la fois la chimie, mais aussi le son pour communiquer.
Il s'appelle Jacques et il interprétait vous.
Les aventuriers sur France Inter.
La famille des fourmis est vaste et très diversifiée. Le monde des fourmis, à la fois proche et inaccessible, est envoûtant et il a encore beaucoup à nous apprendre. Audrey Dussutour va maintenant nous raconter comment on étudie les colonies de fourmis. Alors, ça ressemble à quoi un laboratoire spécialisé dans l'étude des fourmis, Audrey Dussutour ?
Alors, au laboratoire, on a de nombreuses étagères, ça ressemble presque à une bibliothèque. Et sur ces étagères, on a des petites fourmis, des nids. Alors, c'est finalement assez simple, puisqu'on utilise des boîtes. Et à l'intérieur, on utilise, pour simuler finalement les galeries, des tubes à essai qui sont couverts de papier pour les conserver à l'obscurité, avec des abreuvoirs d'eau. Et ces fourmis, elles sont nourries avec des proies, des insectes qu'on élève aussi, des vers de farine, des cafards, etc. Et ensuite, on leur donne aussi, bien sûr, du miel avec de l'eau, et parfois des petits flans faits maison. Et donc, on utilise une substance qui s'appelle le fluon pour éviter que nos fourmis s'échappent. Donc, en fait, c'est une substance blanche dont on enduit les bords de la boîte et qui fait que les fourmis glissent sur les bords et qu'elles restent bien sagement dans leur boîte.
Et vous passez votre temps à les observer. Qu'est-ce que vous cherchez ?
Alors moi, en ce moment, je travaille sur la nutrition chez les fourmis et j'essaye de comprendre comment les fourmis arrivent à finalement réguler la nutrition de la colonie, sachant que finalement seulement les récolteuses sortent du nid et pourtant les besoins au sein de la colonie sont différents. La reine, par exemple, a besoin de protéines pour pondre des œufs, les larves ont énormément besoin de protéines pour grandir, mais finalement les ouvrières qui ont atteint leur âge adulte depuis très longtemps ont besoin surtout de sucre pour fonctionner, pour pouvoir faire leur travail. Et je regarde comment les récolteuses prennent des décisions à l'extérieur en essayant finalement d'additionner tous ces besoins différents. Et je crée également des conflits justement pour voir jusqu'à quel point elles sont capables de réguler leurs besoins nutritionnels. Par exemple, en ajoutant des larves très affamées ou en ajoutant des fourmis plus ou moins affamées. Et on regarde comment les récolteuses ajustent finalement leur comportement de fourragement en fonction de ces besoins. Et donc pour cela, on a des colonies qu'on filme en continu. Et ensuite, on analyse leur comportement en regardant les vidéos, soit au ralenti, soit en accéléré.
Et comment on étudiait les fourmis il y a 70 ans ? Écoutez ce reportage qui date de 1951 et qui a été diffusé dans une émission qui s'appelait Le Roman de la Science, avec deux chercheurs, Pierre-Paul Grasset, spécialisé dans l'étude des insectes sociaux, et Georges Lohmann, qui était un spécialiste des fourmis.
Je me tourne vers Monsieur Lohmann et je lui demande naïvement combien il a de fourmis à sa disposition.
Je serais parfaitement incapable de vous dire le nombre des fourmis que j'ai. Je pourrais peut-être vous dire le nombre des fourmilières, aux environs d'une centaine, mais comme certaines comprennent des milliers d'individus, je ne me suis jamais amusé à les compter.
Et ce sont des espèces...
Toutes françaises, provenant pour la plupart du midi de la France, où la faune est beaucoup plus riche. Quant aux conditions d'élevage, on arrive tout de même à les élever dans des conditions assez favorables, en respectant ceux des facteurs naturels qui sont indispensables et en éliminant un certain nombre d'autres facteurs dont les animaux peuvent se passer. C'est ainsi qu'on peut très bien élever des fourmis sans leur fournir de terre, même quand il s'agit d'espèces qui vivent dans la terre, qui creusent la terre.
Chez vous, c'est pareil ?
Oui, tout à fait, on met jamais de terre dans nos nids, ça serait un peu compliqué. Non, les fourmis s'en passent très bien. Nous, on a beaucoup d'espèces différentes. En effet, nous aussi, on a beaucoup d'espèces qui viennent du Midi, qu'on a été récoltées dans le sud de la France. On a quelques espèces tropicales qui viennent de Guyane aussi, parce qu'on a certains chercheurs au laboratoire qui travaillent sur les fourmis à mâchoire de piège, qui sont des fourmis avec des mandibules très ouvertes, qui ont en fait le mouvement le plus rapide du monde animal.
Ah oui, j'ai vu ça.
Le mouvement de fermeture de leur mâchoire. Donc on a ces fourmis-là au laboratoire. Et ensuite, on a des fourmis qui sont plus connues dans la région, qui sont les fourmis des jardins, la fourmi noire des jardins, l'Asus niger. Elle est très, comme ça, elle paraît peu intéressante parce que c'est une fourmi toute noire, de petite taille, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de choses extraordinaires. Mais c'est la fourmi qu'on appelle aussi la fourmi bergère parce qu'elle élève des pucerons. Et c'est des fourmis que vous allez trouver souvent dans vos rosiers. Et c'est jamais une bonne nouvelle quand vous voyez ces fourmis, parce que la plupart du temps, elles protègent les pucerons. Comme un petit troupeau, elles vont les ramener au nid. Elles estampillent même leurs pucerons pour dire ça, c'est mes pucerons. Elles font même de l'élevage sélectif. S'il y a des pucerons qui produisent plus de miel là, elles vont remplacer leur ancien élevage par ce nouvel élevage. Et donc, c'est des fourmis qui ont une espèce de complexité autour de l'élevage de pucerons qui est assez incroyable.
Je vous écoute nous parler du comportement des fourmis et on a envie de dire que c'est un comportement intelligent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bien sûr, c'est une forme d'intelligence. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Les fourmis, elles ont une intelligence au niveau individuel. Souvent, on a l'impression que quand on étudie l'intelligence collective, finalement, la fourmi individuellement, elle n'est pas intelligente. Ce qui n'est pas du tout le cas. Les fourmis sont capables, au niveau individuel, de faire des choses incroyables, de mémoriser des routes assez complexes dans des environnements extrêmement compliqués. Mais au niveau collectif, bien sûr, elles atteignent un autre degré d'intelligence. Les fourmis sont capables de construire collectivement des radeaux, des cathédrales. Au niveau collectif, c'est vraiment fascinant parce qu'on a vraiment cette question de comment elles font. Et c'est vrai que même au laboratoire, pour comprendre le lien entre le comportement au niveau individuel et le comportement de la colonie, on est obligé quasiment d'utiliser des modèles mathématiques pour essayer de comprendre comment, au niveau vraiment collectif, on a cette intelligence.
Qu'est-ce que l'on n'a pas compris encore ? Qu'est-ce que vous aimeriez vous découvrir ?
Ouh là, c'est une vaste question. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore compris chez les fourmis, et surtout parce qu'on étudie finalement peu d'espèces par rapport à la diversité de fourmis qui existent au monde. Et moi, ce qui me fascine particulièrement, ce sont les fourmis invasives. Donc ces fourmis qui finalement ont un succès incroyable. Je vais prendre l'exemple de la fourmi d'Argentine qui est arrivée il y a 100 ans sur nos côtes et qui maintenant occupe du coup toute la côte océanique, la côte méditerranéenne. C'est une colonie donc qui part de Bordeaux, qui va jusqu'au sud, qui fait tout le contour du Portugal, l'Espagne, la Méditerranée et jusqu'à la botte italienne. Donc vous voyez la taille de cette colonie, c'est la plus grande société au monde. Et c'est une fourmi qui est toute petite, qui quand vous la regardez paraît toute frêle. Et en réalité, si je me permets l'expression, c'est un peu le low cost de la fourmi. Mmh. En réalité, une fourmi, entre l'œuf et l'adulte, il se passe à peine une quinzaine de jours. Donc c'est des fourmis qui sont très prolifiques. Où dans un même nid, vous allez trouver des milliers de reines. Elles s'entendent toutes bien, donc elles ne se tapent pas dessus quand elles se rencontrent. Et du coup, c'est une société géante. Et c'est très intéressant de comprendre comment le comportement de ces fourmis a changé du moment où elles sont arrivées finalement sur nos côtes.
Parce que la
fourmi d'Argentine, par définition, elle vient d'Argentine. Et en Argentine, elle n'a pas le même comportement. Elle n'a pas forcément ce comportement qu'on appelle polydomial, qui est que toutes les fourmis d'une colonie voisine finalement s'entendent bien. On n'a pas ce phénomène et on ne sait pas en fait tout à fait comment en fait se fait ce changement de comportement. On a quelques idées, quelques hypothèses sur les pressions, le fait qu'il n'y a pas les mêmes prédateurs, etc. Mais en réalité, on ne sait pas. Et je trouve que c'est un phénomène assez fascinant parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver chez toutes les espèces invasives en général, pas que chez les fourmis, où finalement les espèces, quand elles se retrouvent dans un nouvel habitat, et souvent pour des raisons, c'est nous les responsables pour la plupart du temps, et elles se retrouvent à finalement innover dans leur comportement, et c'est vraiment une question qui m'anime en ce moment.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet des fourmis, puisque vous avez fait votre thèse sur les fourmis ?
Alors au départ, j'avais pas choisi les fourmis, c'est assez rigolo. J'avais commencé à travailler sur les abeilles parce que j'étais quand même fascinée par les sociétés d'insectes. Et mon premier stage, je l'avais fait sur les abeilles, mais j'ai été allergique très vite. Et après un petit séjour à l'hôpital, j'ai bifurqué sur la fourmi et j'ai rencontré surtout un professeur extraordinaire qui s'appelle Jean-Louis de Neubourg, qui travaille à Bruxelles, c'est lui finalement qui est un peu à l'origine de tous ces phénomènes, de cette étude des comportements collectifs chez les fourmis. Et c'est avec lui que j'ai au départ posé la question de comment les fourmis évitent les embouteillages. Et après, ça a été bien sûr entre moi et les fourmis une grande histoire d'amour.
Et qui continue. Je sais que les fourmis sont les insectes préférés des enfants. Quand on voit des fourmis, on ne les écrase pas.
On essaye en tout cas de pas les écraser.
On les observe.
C'est vrai que les fourmis, elles ont un côté attachant, beaucoup plus que certains insectes. Certaines espèces sont vraiment, vraiment très, très belles. Des fois, c'est des joyaux. Moi, j'ai habité longtemps en Australie et il y a une très grande biodiversité avec des fourmis absolument incroyables. On a, par exemple, chez des fourmis australiennes, on les appelle les fourmis à viande parce qu'elles nettoient les carcasses et elles ont des côtés irisés, violets. Et quand vous les voyez dans la nature, c'est des fourmis qui, quand elles rencontrent une colonie adverse, elles ne se battent pas forcément, mais elles se démontrent leur force.
Et elles font comment
de danse.
C'est vrai.
C'est un petit peu. Alors elles vont se mettre sur leurs pattes arrière, les plus arrière, et se lever comme ça, et essayer de montrer à leur adversaire, c'est moi la plus forte, c'est moi la plus forte. Et l'autre adversaire va essayer. Et puis une espèce de petit ballet comme ça entre plusieurs petits duos de fourmis qui se met en place. Et finalement, il y a toujours une colonie qui finit par capituler, qui finit par dire bon ok, je crois qu'on est on fait pas le poids aujourd'hui, on s'en va. Et je trouve ça assez incroyable parce que vous voyez ces petites têtes irisées violet comme ça bouger avec sous une forme de tango, et c'est assez incroyable.
Quand vous dites c'est attachant, une fourmi ou une colonie de fourmis, vous pensez à quoi?
Ben, en réalité, quand je vois la fourmi, pour moi, la fourmi la plus attachante, c'est une fourmi qui s'appelle Crématogaster. Elle a une petite tête toute ronde, rouge, et elle a un petit abdomen en forme de cœur. Et c'est une fourmi extrêmement curieuse. Si vous approchez votre petit doigt, elle va toujours venir vous explorer le doigt. En réalité, elles peuvent être très, très violentes avec d'autres fourmis. Mais, avec nous, elles ont un côté un petit peu curieux. Et, je trouve, je sais pas. J'ai toujours eu cette idée de la fourmi curieuse. Et ouais, je trouve que c'est un insecte très attachant.
Audrey Dussutour est très occupée actuellement avec ces blobs que Thomas Pesquet va réveiller dans quelques jours pour elle dans l'espace. Elle n'en oublie pas pour autant les fourmis, c'est sa spécialité. Elle termine un ouvrage sur les fourmis qui va bientôt paraître chez Gallimard. Les Aventuriers, une émission réalisée par Stéphanie Texier avec Fanny Leroy. Merci à Stéphanie Place de l'INA pour la documentation et les archives et à Djoubaka pour la programmation musicale. Cette émission est disponible en podcast, bien sûr, comme toutes celles de cette série estivale consacrée à l'intelligence du vivant. J'espère qu'elles vous auront plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès samedi prochain à 7h15 dans le 6-9 du week-end.
Terre.